Terre ne serait pas éternelle, que notre Soleil n'est pas non plus complètement éternel, même si à l'échelle humaine ça peut sembler éternel. Nous savions bien que la vie humaine et la vie comme nous la connaissons, elle disparaîtrait un jour à l'échelle du temps géologique, pas du temps historique. Alors que là, les menaces qui pèsent sont des menaces pour un temps historique. Un siècle, deux siècles, trois siècles, si nous ne faisons rien. Donc, c'est ça qui est une véritable mutation pour notre manière de voir le monde, parce que nous sommes les premières générations, jeunes et moins jeunes confondus, à être confrontés à des sujets inédits, pour lesquels il n'y a pas de réponse a priori. Ce sont des sujets inédits parce qu'il ne s'agit pas d'une prophétie apocalyptique, comme on a pu avoir dans l'histoire de l'apocalypse prophétique, ou bien encore d'une punition divine, quelque chose comme ça, par rapport à des mauvaises choses que nous aurions faites. Nous avons fait des mauvaises choses, mais il n'y a pas de punition divine, bien entendu. Il s'agit aujourd'hui tout simplement de la destruction de nos milieux de vie. C'est ça, c'est ce processus de ce processus. Il se réalise à l'échelle historique, à notre échelle de pensée. Nous devons arriver à le penser, et j'essaierai de montrer pourquoi le fait de parler d'effondrement au pluriel, j'aime bien le pluriel d'effondrement, pourquoi finalement ça nous aide à penser ce qui nous arrive et donc à agir. Contrairement à ce que certains craignent, en disant des choses de ce type, effondrement, catastrophe, etc., on pourrait craindre que ça engendre un fatalisme en se disant « bon, c'est trop tard de toute façon, et autant rester chez soi et regarder le ciel nous tomber sur la tête ». Eh bien non, très certainement que le fait de nommer les choses, c'est la première étape pour pouvoir agir. Donc ce soir, je vais essayer avec vous de nommer ce qui nous arrive. Un premier point d'abord pour dire que c'est un sujet inédit parce que nous avons pensé l'histoire des sociétés humaines complètement indépendante de celle de la Terre. C'est comme ça que nous l'avons pensé. Nous nous sommes pensés maîtres et possesseurs et nous avons pensé que les sociétés étaient simplement le produit de nos choix. C'est aussi tout l'héritage des Lumières, hein, tout l'héritage de cette pensée-là. Nous sommes des êtres libres, autonomes, et nous décidons d'être la société que nous voulons, ce qui reste en grande partie vrai. Mais nous avons oublié que ces sociétés, elles sont inscrites dans quelque chose qui les dépasse, qui s'appelle la biosphère, qui s'appelle la Terre, appelons-la comme on veut. Je ne dis pas planète, je expliquerai tout à l'heure pourquoi. Je dis bien la Terre parce qu'il est temps d'atterrir, hein, de remettre vraiment les pieds sur Terre, de se réancrer sur cette Terre qui n'est pas simplement un astre qui se promène dans l'univers, mais qui est notre seule maison, notre seul habitat possible. C'est vraiment une Terre concrète et pas, encore une fois, un astre qu'étudient les scientifiques. C'est le lieu où nous vivons, où nous sommes ancrés, où nous devrions être ancrés. Donc nous avons pensé notre histoire humaine et l'histoire des sociétés indépendamment de l'histoire de la Terre. Et voire même, nous avons pensé que là résidait notre liberté, c'est-à-dire notre liberté, notre émancipation, elle a été pensée comme un arrachement à la nature. Tout ce qui était de l'ordre de la nature a été longtemps conçu comme finalement une dépendance dont nous devions nous libérer pour accéder à la civilisation. Et donc on a fait une hiérarchie entre nature et culture, entre nature et civilisation, et si bien d'ailleurs que les peuples ou les femmes, par exemple, censées être plus proches de la nature, ont été dominées et ont été considérées comme inférieures, voire incapables d'accéder à la civilisation, parce que trop proches encore de liens liés à la nature, trop proches d'un biologique. Et donc on a nié tout cet aspect-là, toute la part naturelle de la construction des humains et des sociétés. Et aujourd'hui, cela se retourne contre nous. Et nous avons pensé la liberté et l'émancipation dans ces conditions-là comme arrachement, véritablement. Et comme nous avons pensé l'autonomie comme arrachement. Or, aujourd'hui, que constatons-nous? Et c'est ça qui nous désarme beaucoup. Nous pensons aujourd'hui, nous voyons aujourd'hui que nous sommes totalement dépendants. Et nous l'expérimentons, je peux dire, dans les pires conditions. Nous faisons l'expérience, nous qui avons cru nous émanciper totalement de la nature, de la terre, de la nécessité, eh bien nous voyons que l'eau que nous buvons, elle est polluée, et dans beaucoup d'endroits, elle est rare. Que nous sommes dépendants de ressources naturelles qui s'épuisent. On parle aujourd'hui beaucoup de transition énergétique, on parle d'énergie renouvelable, nous avons raison. Mais nous savons aussi que l'énergie renouvelable, ce n'est pas la fée électricité. Il faut des matériaux pour construire même ces éoliennes, etc. Toutes ces nouvelles technologies nécessitent de la matière, des matières rares. Et donc, nous expérimentons concrètement notre dépendance. Et je dis dans les pires conditions parce que cela fait des ravages sociaux terribles. On voit ce qu'est la privation de nourriture, l'empoisonnement de l'air, l'empoisonnement de l'eau, l'empoisonnement des sols aussi, toutes les questions de nourriture. Donc, nous prenons conscience, enfin, je dirais, c'est dans ce sens que la période elle est pleine de menaces, mais il y a aussi une sorte d'insurrection des consciences, quand même, je pense, essentielle, hein, qui arrive peut-être trop tard, mais dont nous devons nous saisir. Nous prenons conscience de notre dépendance et des liens qui nous attachent avec ces biens qui sont absolument essentiels. Et deuxième chose qui nous montre notre dépendance et qui nous replace un petit peu, qui nous remet un peu à notre place, nous les humains tout-puissants qui maîtrisons tout, je veux parler un peu de l'extinction de la biodiversité quand même, et du dernier rapport qui, je crois, a eu un écho important, c'est la disparition des insectes. C'est la diminution très forte des insectes. Nous avons eu pendant des dizaines d'années un rapport avec les insectes extrêmement méprisant, ces espèces de petites bestioles totalement insignifiantes par rapport à nous qui étions pensés comme étant le sommet de l'évolution absolument indépassable. Toutes ces petites bestioles n'avaient absolument aucun sens. Elles étaient simplement une gêne. Et d'ailleurs, on ne s'est pas privé de les supprimer, puisque c'est par rapport à ces petites bestioles qu'on appelle des insectes, qu'on a décrété une guerre chimique totale avec insecticides, etc., etc., dont nous payons la facture aujourd'hui. Et ça aussi, tout à coup, ces petits êtres qui étaient insignifiants, nous prenons conscience qu'ils sont absolument centraux pour notre alimentation, pour la chaîne alimentaire, pour la chaîne de la biodiversité, pour les oiseaux, etc. etc. Et donc là aussi, nous descendons un petit peu de notre trône, et ça ne fait pas de mal, enfin ça fait mal quand même, on se cogne. Mais cette descente du trône, elle est nécessaire. Voilà pourquoi la période, elle n'est pas simplement menaçante, je disais, elle est aussi pleine de ressources pour une nouvelle conscience qui nous permet de nous mettre en action. Donc ces petits insectes, là maintenant, nous allons les vénérer, espérons que nous allons arrêter les pesticides et autres insecticides à leur égard, mais on leur a mené une guerre totale, hein, sans distinction. Troisième point aussi qui nous recadre, c'est que cette planète, cet astre, ce bel astre bleu qu'on nous a montré, vu de l'univers, etc., etc., bon, qui semblait complètement extérieur à nous, finalement, hein. C'est une sorte d'extériorité de la Terre, comme si on n'habitait pas dessus, comme si la vie ne dépendait pas intrinsèquement de la relation. Eh bien, cette Terre, elle répond aujourd'hui. Elle cogne dur. Il y a le système terrestre. Les grands équilibres terrestres sont perturbés. Et la Terre le fait savoir. La Terre le fait savoir, ce sont ce qu'on appelle par exemple des événements météorologiques extrêmes, des vents violents, des typhons, des ouragans, dans des endroits y compris où il n'y en avait jamais. On en a peu parlé, il y a eu un ouragan sur les côtes africaines vers le Zimbabwe, dans cette région-là, il n'y avait pas traditionnellement des ouragans. Il y a véritablement un dérèglement. La terre cogne, la terre frappe. Y compris, il y a des tremblements de terre importants. Par exemple, aux États-Unis, là où on a fracturé massivement le gaz de schiste. Il y a des tremblements de terre importants dans la mer du Nord, là où on a fracturé pour avoir le pétrole. Donc, la terre répond. Alors que nous la pensions passive, à notre disposition, parfaitement gouvernable par toutes nos machines et notre technologie et notre intelligence, eh bien elle répond, elle frappe dur. Et elle n'est pas toujours coopérative, elle n'est pas toujours la terre mère qui nous nourricière, elle frappe et elle fait très mal. Elle répond, ce n'est pas une punition, c'est simplement une réponse par rapport à un système qui a été totalement, qui a été déréglé. Donc nos histoires maintenant se croisent et se heurtent. Il y a vraiment une heure. Et tout ce sujet des catastrophes avait été totalement évacué, surtout au XIXe siècle. C'était présent, XVIIe, XVIIIe siècle, y compris sous des formes non apocalyptiques, sous des formes non messianiques. Mais le XIXe siècle, c'est le siècle de la science toute puissante, c'est le grand positivisme. Et c'est l'idée que nous allons pouvoir gouverner la Terre de la même façon que nous gouvernons un vaisseau spatial ou un avion. Nous allons être les pilotes de la Terre. Et donc toute idée de catastrophe possible a été complètement évacuée. Avec l'idée d'un progrès qui était absolument nécessaire et qui allait nous prémunir par rapport à, par rapport à des catastrophes possibles. Si bien que d'ailleurs nous n'avons pas du tout tenu compte de la vie propre de la Terre. Nous avons construit des centrales nucléaires sur des zones sismiques. Nous avons parfaitement ignoré la vie de la Terre. Nous le savons, mais ce n'est pas grave, on construit quand même des centrales nucléaires sur des zones sismiques. On a construit des villes absolument gigantesques, je pense à Bombay en particulier, mais il y en a d'autres, qui sont des villes qui sont inondables aujourd'hui et qui ne seront pas évacuables, 20 millions d'habitants. Or, on sait qu'avec l'augmentation du niveau des mers, potentiellement, elles peuvent être inondées. Donc, tout ceci, nous avons construit nos sociétés en ignorant totalement les quelques lois. D'ailleurs, nous l'avons vu, je trouve, ces derniers jours avec l'incendie de Notre-Dame. Ça a été quand même assez extraordinaire comment la construction, quand même, les fondations, les constructions qui ont été faites il y a plusieurs siècles, sans doute, parce qu'il y avait tout un tas de secrets, etc., tenait beaucoup plus compte que nous le faisons aujourd'hui, des terrains, des etc., etc., parce que finalement la structure a tenu, alors qu'elle a été soumise à un choc thermique extrêmement fort, au fait que la charpente s'est a brûlé, etc. Je ne pense pas que les constructions contemporaines auraient une résistance de ce type-là, parce que nous n'avons pas tenu compte de ces fragilités. Donc évoquer des catastrophes, c'était un petit peu, c'était être archaïque, c'était ne pas faire confiance à notre toute-puissance. Voilà à peu près ce que je voulais dire comme le premier point. Alors j'arrive maintenant donc à pourquoi parler d'effondrement. Alors je ne vais pas recenser toute la littérature qu'il y a sur l'effondrement. Il y en a énormément aujourd'hui, beaucoup, beaucoup d'écrits sur l'effondrement. Il y en a beaucoup aux États-Unis depuis plusieurs années, bon, ça vient en Europe, en particulier en France. Bon, tout à l'heure, je crois qu'il y aura les livres de Pablo Servigne, qui a écrit ce livre « Comment tout peut s'effondrer ». Il l'a écrit en 2015, ils l'ont écrit parce qu'ils sont plusieurs. Là, il fait un recensement de tous les travaux scientifiques dans tous les domaines qui vont dans le sens de l'effondrement, j'y reviendrai. Mais auparavant, il y avait eu d'autres ouvrages, je pense en particulier à Jared Diamond, qui a écrit un livre qui s'appelle L'effondrement, donc qui était une sorte de best-seller, en particulier où il reprend l'effondrement de l'île de Pâques, l'effondrement des sociétés des Vikings, l'effondrement des Mayas. Alors, ses thèses sont discutées, on ne va pas en discuter là ce soir, bien sûr. Et ce qui est intéressant, c'est que ce sont quand même des études qui montrent que pour tous ces cas qu'il étudie d'effondrement, les données écologiques sont extrêmement importantes, en particulier la déforestation, l'usage immodéré de ressources non renouvelables, font partie des facteurs qui ont présidé à l'effondrement de ces sociétés-là. Bon, de même, il y a un livre qui vient de sortir qui est absolument remarquable. C'est sur l'Empire romain, comment l'Empire romain s'est-il effondré. Je le conseille, c'est à la découverte. Et il y a eu des tas d'analyses de l'effondrement de l'Empire romain au 5e siècle, de la chute de Rome, etc. Et là, ce qui est intéressant maintenant, c'est que il y a de nouvelles recherches d'historiens qui travaillent avec des climatologues, etc., qui montrent qu'il y a eu aussi des facteurs climatiques qui expliquent la chute de l'Empire romain, avec beaucoup de désinondations, beaucoup d'humidité, beaucoup de pluie, etc., et donc des problèmes au niveau des cultures, des épidémies extrêmement fortes. Une partie de la population de Rome est morte aussi d'épidémies du fait de tout ce climat extrêmement moite qu'il y a eu à un moment, etc. Bon, le livre est absolument remarquable, il est écrit par des scientifiques. Donc on est en train de prendre conscience que l'histoire des sociétés, elle n'est pas seulement l'histoire qu'ont voulu les hommes, les humains, elle dépend aussi de facteurs qui sont extérieurs à l'expérience humaine et que l'expérience humaine a totalement négligé et qu'il s'agit maintenant de prendre en compte. Mais j'arrive donc aux effondrements d'aujourd'hui. La différence justement avec l'île de Pâques ou avec les Vikings, avec les civilisations mayas, c'est que ces effondrements sont globaux. Ce n'est plus une société localisée, les Mayas, d'autres sociétés indiennes ou l'île de Pâques. Et là, l'île de Pâques, quand ça s'est effondré, quand cette société finalement a disparu, ça n'a pas eu de répercussions sur le monde entier. Alors qu'aujourd'hui, il y a une intrication telle de toutes les sociétés, la globalisation en plus l'a considérablement accélérée, que ce sont des effondrements globaux. Je pense par exemple à l'empoisonnement par le plastique aujourd'hui. C'est une question globale. Ce sont des questions locales, mais ce sont des questions globales qui concernent toutes les sociétés, personne n'y échappe, les océans, etc., etc. Donc des pollutions globales, je pense au PCB, à toutes ces substances cancérigènes qu'il y a partout dans l'eau, aujourd'hui dans le monde entier, merci Monsanto et d'autres, Bayer et tous les autres, toutes les lobbies de l'industrie, toute cette force de l'industrie chimique. Donc des empoisonnements globaux, des dérèglements globaux et bien sûr des dérèglements climatiques. Et ce qui est important à voir et intéressant, entre guillemets, encore une fois, même si c'est fondé sur des désastres, du désastre peut naître quelque chose aussi, doit naître quelque chose. C'est que ces dérèglements globaux créent des communautés d'expérience à un niveau global. Des communautés d'expérience locales, comme nous vivons ici. Si nous regardons ce qui s'est passé l'été dernier, il y a eu des incendies partout dans le monde. En Californie, en Australie, en Suède, ça n'arrive pas tous les jours, au Portugal, bon, bref, en Grèce. Donc ce sont des expériences communes auxquelles les communautés humaines sont confrontées et auxquelles nous devons répondre. Absolument. Le feu aujourd'hui est devenu, avec le réchauffement climatique, la sécheresse, les sols, etc., c'est devenu un risque majeur. C'est devenu un risque majeur. Et donc, communauté d'expérience. Communauté d'expérience aussi sur les inondations. Les eaux qui ont inondé Miami, il y a un an et demi, c'était pendant l'été 2017, où toute la Floride a été inondée, y compris la Terre, elle ne fait pas de sociologie, je dis souvent. Elle inonde aussi bien Manhattan que le Bangladesh. Donc c'est pas, même si j'y reviendrai, évidemment qu'il n'y a pas égalité. Mais ce sont les mêmes eaux qui envahissaient Miami et toute la Floride et qui inondaient également, bombaient au même moment, le Bangladesh qui était complètement sous l'eau, avec toutes les cultures vivrières également sous l'eau. C'était exactement la même période. Donc ce sont des véritables communautés d'expérience que nous avons aussi, on le voit, nous à le vivre localement, mais à le penser à une échelle beaucoup plus globale, parce que c'est quelque chose que nous partageons. Alors, le réchauffement climatique, bien entendu, est une, je dirais, nous a obligés, en tout cas, moi personnellement, ça a été mon chemin. Le réchauffement climatique, ça a été mon chemin pour modifier complètement toute une manière de raisonner. Pourquoi ? Parce que ce réchauffement climatique, nous disent les scientifiques, mais ce n'est pas seulement les scientifiques aujourd'hui, nous l'éprouvons le réchauffement climatique. Les alertes scientifiques, ça fait plus de 50 ans qu'elles y sont. Mais ça semblait être des alertes très extérieures au vécu quotidien des personnes. Or, aujourd'hui, ces alertes scientifiques, elles coïncident à des impressions, à des sentiments, à du vécu, à des expériences aussi, parfois dramatiques, d'événements météo, etc., etc. Et donc, ce réchauffement climatique, nous savons aujourd'hui qu'il est irréversible. Nous ne pouvons pas décider de revenir en arrière. La situation que nous avons créée, elle est irréversible. C'est-à-dire que tous les gaz à effet de serre qui ont été accumulés pendant depuis deux siècles quasiment, depuis là à peu près que ça augmente vraiment dans l'atmosphère, ça y est. Et la durée de vie du carbone ou des autres gaz à effet de serre, ce n'est pas nous qui en décidons. Et donc ça se maintient. Donc le problème n'est pas seulement ce que nous émettons aujourd'hui, mais c'est ce qu'il y a déjà et que nous continuons, bien entendu, à alimenter. C'est irréversible. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire, mais même si nous étions complètement vertueux aujourd'hui, avec un abandonnement des énergies fossiles, etc., etc., nous aurions à subir un réchauffement climatique, un dérèglement climatique, parce que ce n'est pas que du réchauffement, c'est du chaos climatique, en fait. Donc, c'est irréversible, c'est non négociable. Nous, les humains, nous avons l'habitude, nous avons les sociétés, c'est comme ça que nous avons construit notre liberté, à juste titre. Ce que nous voulions pour la société, c'était toujours négociable. Je peux négocier, il faut un rapport de force. Mais on peut négocier un système de retraite, on peut négocier un temps de travail, on peut négocier des conditions de travail, etc. On se met autour d'une table, il faut un rapport de force. On peut défaire ce qui a été fait. Si on veut, par exemple, revenir sur la loi travail, eh bien, on peut défaire ce qui a été fait. Concernant les dégradations écologiques, pour une part d'entre elles, en tout cas pour le climat, on ne peut pas défaire ce qu'on a fait. On ne peut pas revenir en arrière et effacer la preuve en disant « on s'excuse et on revient en 1960 ». Non, ça ce n'est pas possible. C'est irréversible, c'est, donc je disais, c'est non négociable, et c'est... comment dire, la croissance des pollutions est exponentielle. Bon, ça c'est souvent, nous avons l'habitude de raisonner comme si tout augmentait de manière linéaire, tranquillement, un peu, chaque année. Mais là, il y a une croissance exponentielle. Je prends un exemple, je prends toujours le même, c'est celui que prend Denis Meadows, parce qu'il n'est pas mort. C'est l'auteur principal avec sa compagne, Donella Meadows, du rapport de Rome de 1971, du fameux rapport de Rome qui s'appelait « Halte à la croissance », en tout cas qui déjà sonnait l'alerte sur l'épuisement des ressources naturelles. Et Denis Meadows, il prend un exemple, il dit « Il y a un grand étang, immense étang, et sur cet étang, il y a un petit nénuphar, tout petit. Ce nénuphar, il double de taille tous les jours. Personne ne s'en soucie. L'étang est si grand et le nénuphar si petit. Il y a bien quelques alertes, mais personne ne comprend ce qui se passe. Puis un jour, le nénuphar, il a la moitié de la taille de l'étang. Alors on peut se dire, on a le temps, il y a encore la moitié de l'étang. Mais non, parce que le nénuphar, lui, continue à doubler de taille. Et donc, en un jour, il recouvre complètement l'étang et l'étang est complètement eutrophisé. C'est un peu la situation dans laquelle nous sommes. C'est-à-dire, ce qu'on appelle la grande accélération, c'est-à-dire de nombreuses pollutions, émissions de gaz à effet de serre, qui n'augmentent pas de manière linéaire, mais qui augmentent de manière exponentielle, exactement comme le petit nénuphar. Voilà pourquoi la question du temps se pose, et ça, j'y reviendrai pour agir. Donc, une croissance exponentielle, et nous disent les scientifiques, les climatologues, etc., il y a des seuils à partir desquels il peut y avoir ce qu'ils appellent des boucles de rétroaction. Je donne un exemple très simple que vous connaissez tous, que nous redoutons bien sûr, hein, c'est que lorsque les sols se réchauffent, en particulier les sols près des cercles polaires, etc., se réchauffent, ils fondent, ils libèrent des gaz à effet de serre qui avaient été enfermés précisément pendant des millions et millions d'années, et du coup ça accélère une boucle de rétroaction qui accélère le réchauffement climatique. C'est-à-dire le réchauffement accélère le réchauffement. Voire ça libère aussi des virus particulièrement qui peuvent être agressifs, qui ont été enfermés dans ces sols, qui aujourd'hui dégèlent. Et donc c'est ça qu'on appelle l'emballement climatique, de même les océans qui capturent le carbone. C'est l'essentiel, hein. Les océans capturent le carbone que nous émettons, mais ils n'en peuvent plus, hein, capturer ce carbone-là. Du coup, ils s'acidifient en capturant ce carbone, et leur acidification fait que cela joue sur la faune et sur la flore, et en particulier, ça joue sur la barrière de corail, les fameuses barrières de corail, etc. Donc c'est ce type d'enchaînement qu'on appelle des boucles de rétroaction, voire un jour les océans pourraient libérer le carbone qu'ils ont emmagasiné pendant des millions d'années également. Donc ça, ce sont des boucles de rétroaction. Donc il y a des seuils à partir desquels se mettent en place ces boucles de rétroaction. Bon, ce qui nous reste bien sûr par rapport à cela, parce que je ne veux pas trop, je vois des regards inquiets, bien sûr qu'il s'agit de freiner cela. Nous pouvons le faire. Nous pouvons le freiner. Nous ne pouvons pas revenir en arrière. Nous devons le freiner. Si nous voulons, à l'échelle d'un siècle, deux siècles, nous voulons préserver la vie sous toutes ses formes, et une vie digne si possible, sous toutes ses formes sur cette planète Terre. Donc, nous devons le faire. Mais on voit tout de suite que dans nos alternatives, nos résistances, ce à quoi nous avons à penser aussi, c'est bien sûr freiner et donc trouver des systèmes qui refroidissent la Terre. Nous devons refroidir la Terre par nos systèmes énergétiques, agricoles, etc. Résolument la refroidir. Mais nous devons aussi construire des systèmes qui nous permettent de nous adapter par rapport à un changement climatique, à un réchauffement climatique que nous ne pouvons pas arrêter par un décret présidentiel ou un vote de l'Assemblée nationale. Et donc nous devons construire aussi des sociétés, j'y reviendrai, résilientes, capables de résister à des chocs violents. Et là, nous le savons dans beaucoup de nos alternatives. Et nous sommes donc dans un monde qui est très largement imprévisible. Voilà pourquoi nous ne parlons plus de crise. On dit toujours crise parce que c'est le terme crise climatique, crise écologique, crise, mais bien d'effondrement. Parce que la crise, c'est un processus qui est court. Il y a l'avant-crise, bon, les choses sont plus ou moins équilibrées, puis à un moment donné, ça se détraque, il y a la crise, et puis il y a la sortie de crise. Et la sortie de crise, on retrouve le monde d'avant. Un peu modifié, mais on retrouve le monde d'avant. Le monde de demain ne ressemblera pas au monde d'avant. Y compris pour ce qui est de la géographie physique, la fonte des glaces, la fonte de la banquise va modifier considérablement la géographie de la Terre, avec des passages par les pôles, etc. Et ça, nous sommes aussi, et c'est en ce sens-là que nous sommes perturbés, nous avons connu une géographie de la Terre, et nous sommes en train d'en vivre une autre, alors qu'auparavant, ce type de phénomène prenait des millions d'années. Là, ça s'effectue à l'échelle du temps historique. Nous avons été les témoins de ça, j'y reviendrai, c'est la même chose pour la société industrielle. Et c'est ça qui est extrêmement perturbant. C'est un autre rapport au temps que nous avons. Parce que nous l'avons sous les yeux. Nous serons les premières générations à avoir des bateaux. Ça passe déjà. L'été, la banquise est suffisamment fondue pour laisser passer pour réouvrir les passages qui étaient fermés par les glaces. Ça modifie la géographie du monde et bien sûr la géopolitique. Le climat a des, bien entendu un lien géopolitique extrêmement important. Donc voilà ce à quoi nous assistons. Donc le monde d'après ne sera pas le même que le monde d'avant. Et donc on voit bien que nous sommes devant le collapse, l'effondrement, les effondrements d'une certaine civilisation. D'une civilisation qui a instauré un rapport à la terre, un rapport à la nature, qui a été un pur rapport de prédation, d'accaparement, j'y reviendrai, de richesse, d'accaparement de richesse, au lieu d'être un rapport de soins. Et donc ceci, ça fait, on va pas, c'est peut-être pas le sujet, on pourra y revenir dans le débat, on peut déterminer ce dont on peut, sur ses orientations éthiques ou politiques, des dates, des moments, en tout cas, des moments d'accélération, ce qui est sûr, cette relation à la Terre, cette relation prédatrice à la Terre, elle a plusieurs siècles, elle est même antérieure au capitalisme, même si le capitalisme a complètement épousé cette manière de cette relation à la Terre et a fait de la Terre un strict stock de ressources dans lesquelles, plus ou moins gratuites, pas très cher à aller extraire hein, pour et poubelles aussi pour tous les poubelles pour tous les déchets. Mais cette relation à la terre, hein, cette volonté de s'émanciper hein, de tous les milieux naturels, c'est déjà antérieur au capitalisme. Mais je voudrais dire quand même que les effondrements ne sont pas simplement d'ordre écologique. Et peut-être d'ailleurs là nous avons aujourd'hui beaucoup d'enseignements de certains mouvements. Je pense par exemple aux gilets jaunes. Puisque c'est aussi notre actualité. Bon, beaucoup d'analyses ont été faites sur les gilets jaunes, mais finalement, cet effondrement écologique, c'est quoi? Ce sont bien sûr les alertes scientifiques, etc. Mais c'est tout simplement, je le disais, nos milieux de vie. C'est comment nous mangeons, ce que nous mangeons, comment nous buvons, comment nous cultivons, comment nous nous transportons, quelle énergie nous consommons. C'est ça l'écologie. Bien sûr, il y a une écologie scientifique. Et elle a été très utile, l'écologie scientifique. Parce qu'elle a montré la complexité du monde, la complexité des relations entre les espèces, les arbres, bon, il y a beaucoup de choses maintenant qui sont sorties. La complexité des relations entre les espèces, alors qu'on avait simplifié en mettant les humains au sommet de la pyramide, n'ayant plus aucun lien avec quoi que ce soit en dessous. Là, l'écologie scientifique nous montre les interdépendances, elle nous montre les liens, la complexité, et elle montre une vision qu'on dit holistique, c'est-à-dire la nécessité de penser le tout et pas simplement petit morceau par petit morceau, comme un Lego. Hein, la Terre, c'est pas un Lego qui est fait de telle forêt, il y a une pièce de Lego que je rajoute à côté d'une autre, à côté d'une autre. Non, tout ceci est interconnecté, tout ceci est relié. Et nous avons pensé que nous pouvions couper tous les liens que nous avions avec la Terre. Et donc, destruction des milieux de vie. Et on peut lire aussi, aujourd'hui, la révolte, la révolution, je ne sais pas, appelons-le comme on veut, en tout cas, ce soulèvement des gilets jaunes, comme un soulèvement par rapport à des pertes de milieux de vie. Qu'est-ce qu'ils ont traduit? Ils ont traduit d'abord une détresse sociale, un isolement, mais aussi la destruction des milieux de vie, c'est-à-dire la nécessité d'avoir deux voitures, souvent, dès lors qu'on n'est pas assez riche pour habiter les centres de ville ou les périphéries les plus riches. Donc on est obligé de s'excentrer, nécessité d'avoir deux voitures pour aller travailler, pour aller au supermarché, pour aller chez le médecin, puisqu'il y a désertification médicale, parce qu'il n'y a pas de service public de proximité, parce que le rural a été complètement sacrifié à l'urbain et au grand urbain, à la mégalopole urbaine. Donc c'est tout ça aussi que traduisent les gilets jaunes, même s'ils n'ont pas obligatoirement dit comme ça, c'est quand même partie du refus de la taxe, de l'augmentation du prix de l'essence, mais pas obligatoirement, en tout cas pour beaucoup, pas par refus absolu de toute idée de taxe carbone, mais par l'injustice qu'il y avait, son utilisation, etc. Mais aussi, ils traduisent vraiment le fait que on est dans une société qui s'est désarticulée, qui nous a rendus dépendants, et les gilets jaunes ont montré notre dépendance au pétrole. Nous nous croyons complètement autonomes, sujets souverains qui décident de tout, on décide de rien. Du pétrole, il y en a partout. Nous en avons besoin quotidiennement. Il y en a dans tous les plastiques. Et nous en avons besoin pour nous déplacer. Et on ne se déplace pas uniquement pour du loisir. On se déplace pour travailler, pour faire des courses, pour aller chez le médecin, etc., etc. C'est pour ça qu'on se déplace aussi. Ce sont des déplacements contraints. Et ce n'est pas simplement des déplacements pour le loisir ou pour le voyage. Donc, là aussi, on voit bien comment l'écologie, c'est la société. Et qu'on a eu tort de séparer ce qui était de l'ordre de l'écologique et ce qui était de l'ordre du social. C'est intimement lié. Hein, je disais, c'est l'eau qu'on boit. Mais ça, c'est le social, l'eau qu'on boit. C'est comment aussi on se répartit tous ces biens, toutes ces richesses. C'est ça l'écologie aussi. Et donc, l'effondrement écologique, c'est aussi l'effondrement des sociétés. L'effondrement des solidarités. Le fait qu'ils occupent les ronds-points, c'est assez extraordinaire. Les ronds-points, c'est typiquement des lieux de l'effondrement. Ce sont des non-lieux. Des lieux où on circule, c'est pas des lieux pour habiter. C'est des lieux où on circule. En France, d'ailleurs, il y a eu une inflation de ronds-points, quand même. Hein. Il y avait sûrement des ristournes, hein, parce qu'il y en a partout qui ne servent strictement à rien. Il y avait un slogan très beau à Paris qui disait « Enfin, les ronds-points servent à quelque chose ». Eh bien, oui, c'est vrai. Et donc, c'est quoi ? Ils ont reconstruit un habitat, c'est une lecture qu'on peut avoir aussi, des gilets jaunes, sur ces ronds-points, avec des matériaux de récupération, c'est une préfiguration peut-être de ce que nous aurons à vivre, avec du matériau de récupération, ils ont reconstruit des sortes de petits villages, dans des bistrots, guinguettes, etc., dans des non-lieux absolus, des lieux inhumains, ahumains, asociaux, où on circule, et circuler, il n'y a rien à voir, on ne s'y installe pas, on ne l'habite pas. Ils se sont multipliés, ces non-lieux. L'idée des ronds-points a été absolument géniale, parce qu'elles sont c'est vraiment le symbole d'une société qui est complètement déconnectée, avec la terre qui circule et qui ne s'ancre pas. Sans territoire, je vais arriver au territoire. Donc, c'est destruction des milieux de vie, donc des sociétés, déracinement des gens aussi. Alors, je vais aller vite, on pourra en reparler, tout le problème des migrants. Il n'y a pas une crise des migrants qui commencerait aujourd'hui et qui, si un tel est gentil, s'arrêterait dans 3 ans, non. La question des migrations, elle est structurelle maintenant. Là. Beaucoup de peuples vont être déplacés. Parce qu'ils ne pourront plus vivre, et ça a commencé, là où ils habitaient. Alors, sachons quand même, nous, Européens, que l'essentiel des migrations se fait à l'intérieur des continents. En Afrique, les migrations se font pour l'instant, évidemment qu'il y a une partie qui vient chez nous, en Europe ou ailleurs, mais beaucoup de migrations se font à l'intérieur des sociétés, ce qui crée des déséquilibres dans des sociétés très pauvres, extrêmes aussi. En Asie, c'est la même chose. Les migrations se font. Les inondations du Bangladesh et toute cette région des Sundarbans, etc., dans l'été 2017, c'est 40 millions de personnes qui ont été déplacées. Là, on n'est plus à 3 000 migrants, on accepte 40 millions de personnes déplacées. Ce sont des villes gigantesques, des zones extrêmement peuplées, hein, qui sont aujourd'hui quand même en partie sous les eaux. Donc, problème, ça aussi, ça fait partie d'un effondrement. Et je voudrais aussi dire quand même que cet effondrement, il est accéléré par ce qu'on appelle l'accélération du capitalisme. Il y a une fuite en avant, comme s'il fallait absolument brûler la dernière goutte de pétrole qui nous reste à brûler. Il y a une accélération, ce qu'on voit très concrètement dans les grands projets, les méga-projets, ce que nous appelons les grands projets inutiles. Et ça, il y en a partout dans le monde. Ce n'est pas seulement dans les pays, entre guillemets, riches. Malheureusement, les pays aussi du Sud sont touchés par ces grands projets construits par des multinationales, hein, qui vont là-bas faire des énormes barrages, etc., etc. Et donc là, on sent bien qu'il y a une accélération, hein, qu'il y a une, comment dire, le capitalisme est en train d'accélérer ses infrastructures industrielles, hein, qui deviennent. comme si finalement, comme si le fait que l'espace se restreignait, parce que la Terre est entièrement conquise, aujourd'hui la Terre elle est entièrement colonisée, elle est avec la globalisation, comme si la restriction de l'espace engendrait la nécessité d'accélérer. C'est le temps et l'espace, et moins on a l'espace, plus pour pouvoir vivre, on est obligé absolument d'accélérer. Donc il y a une accélération très forte de tous ces projets d'accumulation, avec un développement des inégalités invraisemblables, insupportables au sens premier du terme. Et on peut dire aujourd'hui que nous sommes avec une sorte de capitalisme de la catastrophe. C'était Naomi Klein qui avait écrit un livre très intéressant qui s'appelle « La stratégie du choc, comment le capitalisme aujourd'hui se nourrit des catastrophes dont il est l'origine ». Et donc là, on a vraiment une accélération des choses. Enfin, avant de passer vraiment à ce que nous pouvons faire, je voudrais quand même évoquer, parce que là aussi, dans ce que nous pouvons faire, il faut en tenir compte. Je crois que nous vivons l'effondrement de ce qu'on a appelé une civilisation industrielle. Et ça, c'est notre, même s'ils accélèrent, hein, et qu'ils nous promettent moins énervés, je prends souvent l'exemple de la Californie. Je trouve ça assez extraordinaire. Pendant cet été, on a vu des images terrifiantes quand même de ces incendies. C'était terrifiant. À quelques centaines de kilomètres de la Silicon Valley, où on expérimente les technologies les plus pointues, l'intelligence artificielle, etc., et où on n'était pas capable de venir à bout de ces feux, de ces incendies. Et ça aussi, hein, ce décalage entre les deux, il était saisissant. Et on était à quelques kilomètres, hein, de la Silicon Valley. Alors qu'on revenait à des histoires archaïques, pour les humains, la maîtrise du feu. Parce que ça a été une construction de l'humanité de maîtriser le feu, justement. Ça a été un moment important dans la construction de l'humanité. Et le fait que le feu nous revienne comme ça et que nous n'arrivions pas à le maîtriser, nous devons aussi y voir un signe, hein, il y a des choses qu'il faut arrêter tout de suite et sans tergiverser. Donc, effondrement d'une société industrielle. Nous avons vu, bon, nous sommes quelques heures quand même, avec quelques années ici, nous avons connu l'apogée de la civilisation industrielle. Détroit, c'était la ville industrielle extraordinaire, la voiture, les Trente Glorieuses, la démocratie, les libertés, etc., etc., la petite maison individuelle pour tout le monde, les grandes banlieues qui s'étendent sur des centaines de kilomètres. Détroit, et on voit l'effondrement aujourd'hui. Et ça, on doit le penser, parce que dans cet effondrement industriel, c'est des gens aussi. C'est des ouvriers, c'est toute une culture qui disparaît, qui est menacée par ces effondrements. Et on a été dans une civilisation vraiment de l'extraction, car c'est dans le capitalisme particulièrement. On extrait les ressources de la terre, on les transforme, c'est ça la production, transformer les richesses naturelles, pour produire des biens, des richesses, et pour les accumuler, pour accumuler du capital. Et avec la figure, hein, essentielle de la fabrication, de la production, et tout ce qui est de l'ordre de la reproduction de la société, c'était considéré comme mineur, et donc reproduction de la terre aussi, considéré comme mineur. D'ailleurs, ce sont les emplois qu'on disait féminins, qui étaient plutôt dans tout ce qui est de l'ordre du soin, de la reproduction, de la réparation, etc. Et pendant longtemps, on a considéré ces travaux-là comme étant des travaux inférieurs et que donc on confiait aux personnes qu'on pensait être dédiées naturellement à ces travaux de soins. Eh bien, peut-être bien que justement, et là il y a beaucoup de travaux, d'études et d'actions de jeunes femmes surtout, écoféministes, qui reprennent ça. C'est très fort en Amérique latine, très très fort, en Amérique latine, en Amérique du Nord aussi, et ça, c'est en train de se construire dans nos sociétés. Et des femmes qui disent, mais attention, on nous a dit pendant très longtemps que ces travaux-là, de soins, c'était des travaux dominés qui voulaient dire qu'on était des esclaves, mais non, nous retournons la situation. c'est parce que au lieu de fabriquer, accumuler, produire, l'avenir, c'est quoi? L'avenir de nos sociétés, s'il y a un avenir, c'est réparer. C'est toutes les activités de réparation des sociétés, des humains et de la Terre. Ce qu'on appelle le prendre soin, le care. C'est toute l'attention qu'il doit y avoir, tous ces services dont nous avons besoin, l'éducation, la transmission, la réparation, le soin. Et là, ces écoféministes, elles disent, nous sommes expertes, justement, dans ce qui est sans doute, dans les valeurs qui sont sans doute les valeurs que nous devons adopter tous et toutes, pas seulement les femmes, pour qu'il puisse y avoir un avenir pensable pour absolument tous. Donc c'est une revalorisation de ces valeurs. Et donc au lieu de les prendre comme les valeurs des victimes, c'est au contraire en faire les valeurs qui portent la possibilité d'un avenir pour tous. Et ça, c'est, je trouve que c'est intéressant. Alors, que pouvons-nous faire des alliances locales pour la transition? Je ne sais plus exactement la question. Comment et avec qui agir localement? Bon, dans ce que j'ai dit, on voit bien qu'il s'agit de freiner les dévastations, de bloquer les dévastations, de bloquer des choses, et en même temps, de construire des systèmes qui permettent de s'adapter. Tout en, bien entendu, avec les valeurs qui nous animent, de justice, de solidarité et de démocratie. Les Gilets jaunes montrent très bien, et ça aussi, c'est la valeur pédagogique de ce mouvement. Il ne pourra pas y avoir de transition écologique sans justice, sans qu'il y ait une acceptation sociale. Et l'acceptation, la confiance sociale, ça suppose la justice, à tous les niveaux. Ça suppose la justice, ça suppose la démocratie. Et sans doute la démocratie, en tout cas à un niveau local, c'est là qu'elle peut le plus directement s'exprimer. Alors, ce qu'on peut faire au niveau au niveau local. Oui, je précise aussi, donc il s'agit de freiner, de s'adapter, et il s'agit aussi de penser vivre et pas survivre. Parce qu'il y a aussi tout un certain courant, pas en Europe trop, mais aux États-Unis par exemple, ou en Angleterre aussi, des mouvements qu'on appelle survivalistes, qui consistent à dire, bon, tout est foutu, mais il faut chacun sauver sa peau, et on va faire un peu, on fait des stages de survie, ça existe, hein, des stages de comment survivre à l'effondrement, etc., en sauvant sa peau. Donc il ne s'agit pas de ça, ce n'est pas la survie biologique de l'espèce qui nous intéresse. Bon, bien sûr, ça nous intéresse aussi, la survie biologique. Mais justement, nous ne sommes pas simplement, nous sommes aussi des êtres biologiques, mais nous sommes aussi des êtres politiques, les seuls. Il n'y a que nous qui pouvons vraiment, ce n'est pas les insectes, hein, qui pouvons réellement prendre des décisions qui pourront effectivement freiner et inventer d'autres mondes vivables et soutenables. Je disais donc que l'idée d'effondrement est intéressante parce que quand même, au pluriel, ça montre le niveau de l'action. Là où nous devons aujourd'hui poser l'action. Et je reprends souvent une phrase de Denis Meadows, toujours, il disait en 2012, après avoir alerté son rapport, c'était 1972, il a réécrit un nouveau rapport en 2012, et là, il a été interviewé, il disait « c'est beaucoup trop tard pour le développement durable ». Ça, là nous avons, c'est pas 100 ans, 200 ans que nous avons pour faire les transitions. Et d'ailleurs, je ne sais même pas si le terme transition est aussi à questionner. Il faut des ruptures. Il ne faut pas que des transitions à petits pas, un petit pas par-ci, un petit pas par-là. Peut-être il y a 50 ans, oui, si vraiment nous avions entendu les alertes, il y aurait eu possibilité, mais là, le temps presse. Il y a des urgences sociales et écologiques et politiques d'ailleurs aussi. La démocratie s'effondre aussi, hein, c'est pas seulement l'écologie qui s'effondre. Mais c'est lié. Et donc, ça donne le niveau de l'action. Donc, pas de politique des petits pas, vision holistique et globale. Je prends l'exemple souvent de la voiture électrique qui peut paraître comme ça, on se dit, oui, c'est bien la voiture électrique. Ça, c'est typiquement une vision non holistique. Si je ne regarde pas tout de suite à comment elle marche, la voiture électrique, que malgré tout, elle ne fonctionne pas toute seule. Il faut recharger les piles, les batteries, et que pour ça, il faut de l'électricité. Et que si on voulait convertir le parc automobile français tel qu'il est aujourd'hui en voiture électrique, il faudrait entre 7 et 9 réacteurs nucléaires de plus. Donc voilà, il faut choisir. Donc voilà une bonne idée, une idée qui peut paraître excellente. Dans ce cas, oui, la voiture électrique, c'est très bien. Non, vision, nécessairement, bien comprendre les interdépendances. Ça ne veut pas dire que c'est à rejeter, mais on ne peut pas en faire le modèle central, la solution qui nous résoudrait tous les problèmes des transports. Que ça puisse être mieux que d'autres véhicules, oui, mais comme complément, ça ne peut pas être le centre de la politique des transports, bien entendu. Donc une vision plus globale, plus holistique, et comment dire, il ne s'agit pas non plus de se fixer des objectifs du type sauver la planète, sauver le climat, sauver l'humanité. Je dirais même qu'il faut se méfier des grands sauveurs de la planète, du climat et de l'humanité, parce qu'il y en a beaucoup aujourd'hui. Toutes les grandes firmes transnationales, Monsanto va sauver l'humanité depuis longtemps, il la sauve d'ailleurs. Total va sauver Notre-Dame, d'ailleurs j'ai vu Total finance, qui profite de l'exemption d'impôt pour financer la reconstruction de Notre-Dame. Bon, bref, donc des sauveurs de la planète, de l'humanité, il y en a à revendre aujourd'hui. Non, nos objectifs, ils sont beaucoup plus, ils sont ancrés, ils ne sont pas abstraits. Nous ne sauvons pas l'humanité, nous sauvons la possibilité d'une vie digne, démocratique, humaine et non humaine sur cette terre. Et nous le faisons à partir des expériences vécues, à partir d'un ancrage. Donc voilà, il est trop tard, je vous disais, développement durable, sauver la planète, etc., etc. Donc il est temps d'atterrir. Il y a un très bon livre de Bruno Latour, son dernier livre, « Où atterrir ?», qui est très bon. C'est son meilleur de mon point de vue. Où pouvons-nous atterrir ? Nous sommes des terrestres. J'appartiens à une association d'ailleurs qu'on a appelée les terrestres, outre-Atlantique. Nous sommes des terrestres. Alors ça recommence sur Mars là. Non, nous ne pourrons pas aller sur Mars. Nous sommes définitivement des terrestres. Nous devons atterrir. Et c'est en ce sens que les territoires, c'est très beau comme mot. Le territoire, il y a terre dedans. Alors que ces territoires aujourd'hui, ils ont été conçus hors sol, un peu comme les ronds-points, comme s'il n'y avait pas d'attache. Donc nous devons évidemment penser des alternatives, des expériences. Je sais qu'il y en a ici des éco-villages, des éco-hameaux, des expériences alternatives qui nous redonnent des racines. Mais pas les racines mythiques, bon, que souvent on évoque, qui nous permettent de nous sentir terrestres, de nous sentir appartenir à cette terre que nous allons défendre contre tous ceux, il faut les identifier, contre tous ceux qui sont en train de détruire toute possibilité de vie sur la terre et détruire la terre elle-même. Donc, mais pour la défendre, il faut que nous soyons ancrés. On ne peut pas la défendre comme ça. Donc c'est l'ancrage territorial qui nous donne vraiment des armes pour arriver à réduire, à freiner ce pillage systématique. Donc c'est récupérer, c'est le terme anglais est beau, c'est reclaim, récupérer l'eau partout, l'eau, je veux dire, récupérer la gestion de l'eau qui nous a échappé, c'est les firmes privées qui gèrent l'eau comme elles géreraient n'importe quoi, hein. C'est un produit comme un autre. L'eau, la terre, les sols, les semences, bon bref, vous connaissez tout ça très bien. Et c'est par exemple aussi retrouver des possibilités, ça, il y a beaucoup d'expérience et d'espoir un peu sur le municipalisme. Comment une communauté locale peut reprendre en main un certain nombre de choses, s'éloigner au maximum des lobbies, hein, reprendre vraiment la maîtrise de son propre territoire. Je cite souvent une commune, Moinsartou, qui est coincée entre Nice et Cannes. C'est des extraterrestres presque. Entre Nice et Cannes, ils ont eu un maire, ils ont eu la chance d'avoir un maire extrêmement combatif pendant ces 10 000 habitants quand même, hein, qui a refusé toute installation de grande surface depuis des années autour de Moinsartou. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire du commerce local, ça veut dire des artisans qui survivent. Bon, j'imagine qu'à Sète et ailleurs, en particulier dans les villes moyennes, c'est une véritable catastrophe, le dépeuplement. C'est un effondrement des centres-villes, dont se saisit l'extrême droite souvent. Béziers était un centre-ville effondré, totalement. Et ça, certains savent faire pour reprendre ces centres-villes et ces villes. Donc, tout ce qui est du domaine du municipalisme, penser de manière holistique, je pense à toutes les expériences qu'il y a au Pays Basque, par exemple. Bon, il y a une vieille tradition de résistance. Il y a de la tradition de résistance partout. Il faut la faire renaître, il faut la faire connaître. Mais dans le Pays Basque, c'est vrai qu'il y a un ancrage extrêmement fort, mais ils sont en train de construire un véritable territoire autonome, résilient. Ils ont une monnaie locale, qui n'est pas une petite monnaie locale, c'est la plus importante d'Europe actuellement, l'USCO. Ils ont une coopérative d'énergie, type Enercoop, ils ont l'équivalent basque. Ils ont la chambre d'agriculture qu'ils ont prise, c'est la confédération paysanne, etc., etc. Donc ils sont en train de recréer, de manière, en créant les interdépendances, de recréer véritablement un territoire. C'est ça qui est en jeu aujourd'hui, pour pouvoir s'opposer véritablement. Du coup, ils accueillent des migrants. Regardez la ville de Bayonne, un peu ce qu'ils ont pu faire. C'est un maire de droite, UDI, c'est un centriste de droite. Ils ont quand même occupé un grand centre qui est un ancien hôpital, je crois. Et ils accueillent des migrants en masse, dont ils s'occupent, qu'ils redirigent ensuite. Bon, après. Donc ça veut dire que ce sont des territoires qui, en se reconstruisant, comme ça, permettent aussi toutes ces résistances. Donc je dirais que quelles alliances, avec qui on peut travailler. Aujourd'hui, c'est l'ensemble des sociétés qui sont menacées. Face à une oligarchie qui, elle a fait sécession. Elle est hors sol, elle est offshore. Un peu comme la finance qui se promène autour des sociétés, au-dessus des sociétés. Donc, les alliances, elles peuvent être larges, très larges. Aujourd'hui, par exemple, lutter contre l'empoisonnement par les pesticides, les alliances peuvent être larges. Parce que ce qui est en jeu, évidemment, c'est autre chose que de l'intérêt, de la condition personnelle de vie. Ce qui est en jeu, c'est bien autre chose. Et pour que ces alliances larges puissent se construire, il faut désigner nos adversaires. Nous avons des adversaires. Et nous devons les désigner. Ils ne sont pas abstraits. C'est d'ailleurs beaucoup de ceux qui veulent sauver la planète. Nous devons désigner les adversaires. Il y a des responsables. Nous ne sommes pas tous également responsables. Ça ne veut pas dire que nous n'avons pas une responsabilité individuelle. Bien sûr que nous l'avons. Mais il y a des niveaux de responsabilité qui sont totalement différents. Et c'est au-delà de responsabilité, il y a des actes criminels aujourd'hui qui doivent être désignés comme étant des actes criminels. Parce qu'ils participent non pas d'un génocide, mais d'un écocide. C'est-à-dire, en toute connaissance de cause, on détruit des systèmes de vie. En toute connaissance de cause. Et ça, c'est un crime. Pas seulement contre l'humanité. C'est un crime contre la vie des humains et des autres espèces. Donc nous devons désigner évidemment nos adversaires, mais dans cela, encore une fois, je pense qu'il peut y avoir des alliances assez larges. Je vais conclure. Je conclue quasiment en disant que face aux enjeux que nous avons, bien sûr, ce sont toutes les alternatives concrètes, mais il y a aussi peut-être une nécessité de désobéissance. Nous sommes face à une question qui est politique, mais qui est aussi éthique. Jusqu'où j'obéis ? Donc ça, ce n'est pas une question purement individuelle. Aujourd'hui, nous voyons émerger des mouvements non violents, souvent, fondée sur la désobéissance, qui expérimente la désobéissance. Une désobéissance active, une désobéissance collective, dès lors qu'ils estiment que sur un plan éthique et sur un plan politique, certaines situations sont totalement insupportables et que donc il est nécessaire de désobéir. Donc ça, c'est une voie extrêmement importante. Je crois que nous, aujourd'hui, nous devons bloquer le système, ce système qui détruit, et passer sans doute aussi par des voies de désobéissance collective. Nous sommes véritablement en état de nécessité. En particulier, il y a beaucoup d'actes de désobéissance, d'occupation, de blocage sur toutes les utilisations d'énergie fossile. Par exemple, en Allemagne, les grandes occupations de mines, de lignite, etc., etc. Ça, ce sont des actes extrêmement, extrêmement importants. Enfin, parce que c'est la question qui revient souvent, quelles sont les échelles de l'action? Est-ce que nos petites expériences locales, est-ce qu'elles ont du sens par rapport à ces grands enjeux? Oui. Oui. Parce que c'est souvent pour avoir négligé tous ces engagements locaux qui nous engagent personnellement et collectivement que se sont installés les systèmes les plus terribles. Oui, il n'y a pas d'expérience ou de résistance qui ne soit pas significative. Et donc, aujourd'hui, nous devons agir à toutes les échelles. Nous devons agir partout où nous le pouvons. Nous sommes tous différents, nous occupons des places différentes dans la société. Mais c'est partout que nous devons agir, à l'échelle locale, et si nous le pouvons, à l'échelle régionale, à l'échelle de l'État européenne et à l'échelle globale. Mais il ne s'agit pas de dire qu'il y aurait une échelle. En revanche, ce qui est certain, c'est que pour la plupart des gens, c'est l'échelle locale qui est l'ancrage absolument central, c'est le territoire, et qui permet ensuite de s'envoler, et qui permet, c'est quand on a des racines. Et pour terminer sur une note un petit peu, d'espoir, je dirais, je voudrais raconter l'histoire que j'ai lue dans le dernier livre de Naomi Klein, Le choc des utopies, ça s'appelle. C'est un tout petit livre qu'elle vient de sortir. Elle est allée enquêter à Porto Rico après l'ouragan qui s'appelait l'ouragan Maria. Elle est allée enquêter, donc cet ouragan a été d'une violence inouïe et a quasiment tout détruit sur l'île. En particulier, l'ouragan a détruit entièrement le système électrique ultra centralisé qui avait été mis en place sur le modèle classique. Mais l'ouragan Maria n'a pas détruit des panneaux solaires qui étaient installés sur, il y a une sorte d'éco-village, si vous voulez, au centre de Porto Rico, qui était construit depuis plusieurs années, etc., par des alternatives, disons, qui avaient installé des panneaux solaires, etc. Et là, ça a résisté. C'était le seul endroit de l'île où il y avait de l'électricité. Et c'est de ce centre-là, à partir de là, qu'ont pu être donnés les premiers secours. Les secours ont mis du temps à arriver parce que c'était extrêmement compliqué. Et là, il y a eu de l'électricité, ça a permis de soigner les gens, ça a permis d'organiser les secours. Ce centre, donc, a été créé dans les terres anciennes une trentaine d'années. Beaucoup de Portoricains disaient « Oh, c'est des hippies qui font ça, ils faisaient de l'agriculture bio, de l'agroécologie, des panneaux solaires, etc. » Sauf qu'après, tout le monde s'est retrouvé là. Et autre chose de l'ouragan Maria, très intéressant. Cet ouragan Maria, donc, elle a dévasté totalement toutes les cultures d'exportation, les cultures spéculatives. C'est une économie, c'est un capitalisme purement colonial. Les bananes, le café, etc., etc., tout ça pour l'exportation. Elle a laissé intactes les cultures vivrières, les cultures racines, on dit, qui n'ont pas été perturbées par l'ouragan et qui ont permis à la population qui vivait, pas trop dans les villes, mais qui vivait justement près de ces cultures vivrières qui avaient été conservées, a permis de survivre en attendant que les secours arrivent. Donc, on peut dire que nous avons une alliée aussi parfois, qui s'appelle la Terre, peut-être, et que j'ai trouvé ce livre très beau, parce qu'elle montre qu'il y a deux utopies qui vraiment se confrontent. Cette utopie des énergies renouvelables, des choses territorialisées, d'une agriculture vivrière, et bien entendu, exactement comme la Nouvelle-Orléans, les projets de reconstruction de Porto Rico, une île pour riches, on profite de l'ouragan pour faire partir tous ceux qui sont pauvres, qui font un peu sale quand même dans le paysage, pour en faire un paradis fiscal et un paradis social pour des riches fortunes. Elle dit, c'est vraiment deux utopies qui se confrontent. Mais sauf que, face aux ouragans, l'utopie meurtrière, elle sera dévastée. Alors que subsisteront justement ces endroits qui auront anticipé ce qui se passe et qui se seront reterritorialisés, réenracinés, ce qui les rend beaucoup plus forts par rapport à des perturbations qui sont malheureusement à venir. Je vous remercie.